Merci beaucoup pour votre invitation et pour votre accueil. Vous m'avez demandé ce soir d'essayer de faire réfléchir à la question des directives anticipées, qui est un des aspects du droit français. Et je vais vous expliquer un peu la complexité de cette notion des directives anticipées. Et puis on aura un temps d'échange. Et comme vous le disiez, moi je suis à votre disposition pour... toute question relative à un domaine dans lequel je peux avoir un peu de capacité à vous répondre, hein, c'est-à-dire tout ce qui est dimension éthique, fin de vie, toutes ces questions, tout ce qui est en train de se tramer, mais je sais que vous en avez, ça a été l'objet de la dernière conférence, si j'ai bien compris. Donc, mais enfin, si des questions se tournent autour de tout cela, je vous propose puisque nous parlons de choses compliquées, je vous propose d'être simple. Alors, sur la question des directives anticipées, d'ailleurs, vous aviez posé une question, c'est ce que me rappelait le... Monsieur journaliste là, qui m'a interviewé hier ou avant-hier, là, décider pour soi-même d'une limite à l'intervention de la médecine. C'est ce que vous aviez marqué, je crois, dans le titre. Non, mais c'est très juste. Hein. Je vais d'abord peut-être vous rappeler le droit français. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette notion de directive anticipée, si vous voulez bien, de manière à ce qu'on parle la même langue après. Vous expliquer pourquoi est arrivé dans le droit français... cette idée qu'il fallait que chacun d'entre nous puisse décider du pas de trop ou de ce qu'il ne veut pas, etc. Et puis je rentrerai dans la complexité, si vous voulez, parce que je pense que le mot est simple, directive anticipée. Bon, on écrit ce qu'on n'a pas envie qu'il advienne, entre guillemets, mais la réalité est très complexe et je vous expliquerai pourquoi. En France, alors que la loi qui a... mis en place ce concept ou cet outil des directives anticipées date de 2005. Pourquoi on a aujourd'hui seulement entre 12 et 13% des Français qui écrivent des directives anticipées alors qu'elles seraient utiles? Pourquoi il y a un tel hiatus entre l'utilité, le besoin et puis la réalité? Alors, quand on parle de directives anticipées, donc on parle... d'un document que chacun d'entre nous peut écrire quand il se projette dans une perspective dans laquelle il n'a pas envie de se projeter d'ailleurs. C'est-à-dire sa fin de vie, sa possibilité d'être malade, et éventuellement d'ailleurs de ne pas pouvoir guérir de la maladie, éventuellement de mourir. Appelons un chat un chat. Enfin, j'espère que je ne vous choque pas en parlant comme ça, mais je pense qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'autres issues que celle-ci. Hein. Il y a une forme d'égalité dans notre société, c'est que chacun d'entre nous finit de la même manière, hein, riche ou pauvre. Donc, en parler quand on va bien, je vous le dirai tout à l'heure, ce qui est mon cas, ce n'est pas très compliqué. C'est plus compliqué lorsqu'on est confronté soi-même à cette question de la fin de vie. Mais en tout cas, la notion de directive anticipée, inscrite dans la loi depuis 2005, renforcée par une autre loi en 2016, signifie que chacun d'entre nous, malade ou pas malade, peut, s'il se projette dans un état dans lequel il pense qu'il peut se trouver, peut dire ce qui lui semblerait déraisonnable, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il aimerait qu'on ne lui fasse pas, ou qu'est-ce qu'il aimerait qu'on lui fasse, mais je viendrai sur le fait que, par exemple, il y a des choses qu'on aimerait, par exemple, c'est continuer à vivre éternellement sans entrave, on peut écrire ça, mais ça ne sert à rien, si vous voulez bien. Je pense qu'il n'est pas possible de demander l'impossible. Hein. Mais plutôt s'imaginer dans une situation dans laquelle on ne souhaiterait pas se retrouver. Ça a été très médiatisé, cette question des directives anticipées lors de l'affaire Vincent Lambert. Vous vous rappelez de cette affaire Vincent Lambert était alors je connais son dossier pour avoir été nommé par la justice pour l'expertiser, ce dossier, donc... mais c'est un peu l'archétype de questions qu'on pourrait évoquer ensemble, hein, mais Vincent Lambert s'est trouvé dans cet état, on appelle ça un état végétatif chronique, c'est-à-dire en fait une altération profonde, quasi totale de la conscience humaine, mais pas d'altération des capacités vitales. Donc c'est quelqu'un qui respirait spontanément, qui avait le cœur qui battait, et qui, s'il n'avait pas été nourri et soigné au sens, serait mort. Et vous vous rappelez de cette discussion qui a défrayé, hein, la chronique, beaucoup intéressé les médias, parce qu'elle mettait en tension au sein d'une famille des personnes qui estimaient qu'il fallait arrêter de contribuer à maintenir en vie une personne qui aurait exprimé qu'elle n'aurait pas souhaité se trouver dans cet état, et une autre partie de la famille disant que la vie ayant une dimension un peu sacrée, je ne porte pas de jugement derrière tout cela, il eût été sacrilège d'arrêter les traitements, en l'occurrence la nutrition artificielle qui le maintenait artificiellement en vie. Et les choses auraient été plus simples si... cet homme avait écrit lui-même des directives anticipées. S'il avait écrit, si nous avions été en possession d'un document où il aurait écrit « Si je me trouve dans un état végétatif chronique et que ma vie est une vie dénuée de conscience, de capacité à m'exprimer avec autrui et d'être conscient de l'environnement dans lequel je suis, si ma vie n'est plus marquée par la conscience et que je suis totalement dépendant d'autrui, ce qui est la réalité, s'il avait écrit « Je souhaite qu'on ne me maintienne pas artificiellement en vie », il eût été obligatoire d'arrêter les traitements qui le maintenaient en vie, en l'occurrence, le fait de le nourrir artificiellement. Il eût été aussi obligatoire au titre de la loi, puisqu'on arrêtait de le nourrir, en quelque sorte, de l'endormir pour qu'il ne souffre pas des conséquences de l'arrêt de la nutrition. Et il serait mort. C'est finalement ce qui s'est passé, parce qu'une partie de sa famille s'est souvenue qu'il avait dit ça. Il avait dit ça. Cet homme était un ancien infirmier qui, pendant ses études, s'était exprimé sur cette question-là. Et il avait d'ailleurs été enregistré, filmé, comme vous le faites, là, mais des années auparavant, hein, et ce document a été un document déterminant pour la justice. Je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin, la justice avait été saisie, puis le recours au Conseil d'État, puis la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, je me souviens avoir été à Strasbourg, moi, pour. Il y avait quelque chose d'extrêmement tendu autour de tout ça. Et parce que ces collègues de promotion de l'époque ont retrouvé cette cassette où il avait été enregistré, ça a été un élément déterminant, ce qui a amené la justice européenne et française à valider le fait que l'on pouvait arrêter un traitement qui apparaissait déraisonnable, parce que le patient, même s'il n'avait pas écrit de directive anticipée, l'avait exprimé. Et il était déraisonnable pour le patient. Il y a à situation égale des personnes qui voient les choses différemment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent que ça n'est pas déraisonnable. Il ne s'agit pas pour moi de dire la vie n'a plus de sens quand on est dans tel état. Je pense que alors là, on serait dans une dérive, littéralement. Donc vous voyez, le législateur, voyant cela, s'est dit, et en particulier les deux députés Alain Claisse et Jean Leonetti, en 2016, ont renforcé les droits autour de tout ça en disant que les directives anticipées sont donc un document écrit par la personne elle-même, disant ce qu'elle ne souhaiterait pas si elle se trouvait dans l'état d'une pathologie évoluée, etc. Les directives anticipées peuvent être écrites lorsqu'on n'est pas malade ou lorsqu'on est malade. Je reviendrai sur la différence qu'il y a quand même entre ces deux situations. Elles sont datées, mais elles n'ont pas de durée de validité. Elles sont indéfiniment valables, sauf si la personne les révise, tant qu'elle peut les réviser. En fait, elles servent à prendre une décision médicale au nom de la personne, quand la personne ne peut plus s'exprimer, mais qu'elle l'a fait par écrit. Si ce n'est pas clair ce que je vous dis, vous me faites des sémaphores, j'explique. Donc c'est un document écrit qui a une valeur au plan juridique extrêmement importante, puisque du coup, depuis 2016, ce qu'écrit la personne malade de ce qu'elle ne souhaiterait pas qu'on lui fasse, ou ce qu'elle souhaiterait qu'on arrête ou qu'on n'introduise pas, c'est contraignant pour les médecins. C'est contraignant, c'est-à-dire qu'on est obligé d'accepter cela, même si... ça m'est arrivé récemment chez une personne qui avait une tumeur cérébrale qui avait écrit des directives anticipées en disant qu'à partir du moment où elle perdrait la capacité de s'exprimer, la vie n'aurait plus de sens pour elle. Et qu'à partir du moment où l'évolution de sa tumeur serait telle qu'elle ne peut plus exprimer son avis, elle considérait que tout ce qui serait fait, qui pourrait contribuer à la maintenir en vie, serait nul et non avenu, et elle ne le souhaitait pas. Et il y a eu une tension, je m'en rappelle, avec les médecins qui soignaient cette jeune personne d'ailleurs, puisqu'eux pensaient que des traitements étaient encore possibles, mais ces traitements n'avaient aucune garantie d'améliorer sa conscience, en quelque sorte. Donc il a fallu, contre l'avis des médecins, enfin, médecins qui ont bien compris cette affaire-là, mais l'avis de cette personne, qui ne pouvait plus s'exprimer, mais qui avait exprimé cet avis par écrit, a prévalu sur l'avis de la médecine. Ça, c'est le droit français aujourd'hui. Donc c'est important que vous l'entendiez, c'est quelque chose qui fait que la personne malade, dans notre droit et dans notre système de santé, est a priori celle qui décide de ce qui est bon ou pas bon pour elle. On ne peut pas décider pour autrui. Et d'ailleurs, ce que dit la loi française, ça signifie quelque chose. Pourquoi en France? Parce qu'on aime beaucoup les lois en France, hein. On fabrique beaucoup de lois à la minute, mais en fait, ça signifie le fait qu'on était obligé de dire que ce que disait ou affirmait une personne, c'était ce qui comptait le plus, et plus que ce que peut dire par exemple un médecin. Ça veut dire que ça ne se passait pas comme ça avant. En fait, depuis les lois Kouchner en 2002, ce qu'on appelait les droits des malades, en réalité, il y a eu une espèce de basculement, de changement de paradigme dans le domaine de la médecine. Avant, je me souviens, lorsque j'étais jeune médecin, je pense que vous aviez la même formation, on nous apprenait qu'il ne fallait pas embêter le malade avec des décisions. C'était à nous de prendre les décisions pour lui. On savait ce qui était bon pour autrui. On nous enseignait cela. Et il y a eu le sida, par exemple. Il y a eu l'affaire du sang contaminé. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont terni la position de la médecine. Et puis, il y a eu des abus de pouvoir dans le domaine de la médecine. Alors, je ne généralise bien entendu pas en disant cela. Puis, je ne veux pas être iconoclaste. Je suis médecin et je ne vais pas dire que tous les médecins sont... Mais il y a eu comme une forme de méfiance vis-à-vis du pouvoir médical qui a amené petit à petit le législateur à limiter la possibilité du médecin. Puis, sur un plan de la réflexion éthique, de dire, mais au fait, qui serais-je, moi, en tant que médecin, pour décider de ce qui est bon pour autrui? Au nom de quoi saurais-je la valeur de la vie ou le sens de l'existence d'autrui? Ce sont des questions très individuelles. Et depuis ces lois, nous avons, par exemple, en tant que médecin, le devoir d'expliciter aux patients ce qu'ils ont, ce qu'on peut leur faire, les possibilités et les limites de ce que l'on peut faire. Et en théorie, nous devons positionner la personne malade en capacité de décider. Alors souvent, et nous échangeons rapidement avec un collègue tout à l'heure, c'est dans la relation entre un soignant et la personne malade que tout cela s'élabore. Ça se fait, à mon avis, par la parole, c'est un cheminement tout cela. Hein. Mais en tout cas, le droit a jugé, le législateur français a jugé nécessaire d'inscrire le fait que c'est le principal intéressé, qui est le principal concerné quand il est malade et qui doit décider de lui. Et donc, je reviens sur cette notion de directive anticipée, ça va même plus loin, puisque le principal intéressé peut décider, même quand il n'est plus en capacité de décider, s'il a écrit ce qu'il ne voudrait pas en particulier. Ça, c'est le droit, c'est le contexte du droit. Maintenant, je vais vous dire la réalité, parce que du coup, c'est assez simple de comprendre cet outil que sont les directives anticipées. Mais comme je vous le disais en préambule de mon propos, comment se fait-il que si peu de personnes les écrivent, ces directives anticipées? Longtemps, on a dit, c'est parce que les gens ne savent pas, on ne leur a pas expliqué. Peut-être il faut continuer les explications, c'est ce que vous faites, à mon avis. Là, ça s'apparente à une forme d'éducation, hein, pour moi, ce que vous faites là. Mais à mon avis, ça n'est pas qu'une question. C'est une question d'information, c'est ce que vous faites, et vous faites bien de le faire. Il faut que les gens sachent qu'ils peuvent écrire des directives anticipées. Mais je voudrais vous expliquer la complexité qu'il y a derrière un mot comme celui-ci, directive anticipée. C'est quelque chose qui peut apparaître simple quand on est bien portant. Vous avez peut-être remarqué ça. On est assez clair quand on va bien. Sur ce qu'on ne voudrait pas, sur... Faites l'essai, puisque les directives anticipées peuvent être écrites lorsqu'on n'est pas malade. Faites l'essai de vous projeter dans une situation dans laquelle vous ne souhaiteriez pas être, bien entendu. Faites l'essai, aller plus loin, d'écrire ce que vous ne voudriez pas. Vous verrez qu'entre ce qu'on dit, ce qu'on pense, et ce qu'on va écrire, c'est-à-dire que écrire, c'est engager, c'est éclairer sa pensée, hein. Ça devient déjà plus compliqué. Parce qu'en fait, on doute. Puisque qu'est-ce qu'on peut dire qu'on sait quand on n'est pas malade? Si je suis honnête, je dis qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est qu'être malade, puisqu'on ne l'est pas. Donc comment pourrions-nous prendre des décisions concernant un état dans lequel nous ne sommes pas? Et j'ajoute que comment pourrions-nous prendre des décisions concernant un état dans lequel nous ne sommes pas, mais dans lequel nous ne souhaitons pas être? Sauf à être un peu pervers, je ne connais personne qui dise « qu'est-ce que je rêve d'être très malade au point de vouloir décider d'arrêter les traitements, par exemple. » Donc vous voyez déjà que c'est, à mon avis, ce qui explique le peu de directives anticipées, c'est la difficulté à réaliser tout cela. C'est même, je dirais, l'impossibilité pour certains d'entre nous de se projeter dans un état dans lequel on n'a pas envie d'aller. C'est parfois même une forme de dénégation, c'est-à-dire c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Mais donc c'est difficile. On pourrait dire, mais finalement c'est un outil qui peut être très utile quand les gens sont malades, quand ils tombent malades, quand on est atteint d'une maladie, et singulièrement d'une maladie grave, et singulièrement d'une maladie dont on sait qu'on ne sait pas la guérir, par exemple. Hein. Évidemment, quand on sait guérir, tout va bien. Mais j'espère que je ne vais pas vous foutre le moral à zéro. Mais... En fait, il ne faut quand même pas se leurrer, nous sommes un peu triomphants, souvent nous les médecins, mais si nous regardons avec un peu de hauteur ce que nous faisons, certes, la médecine a énormément progressé, enfin je vous propose de ne pas discuter ça, parce que ça me semble une évidence, même si on est dans une période un peu complotiste où il faut remettre en question tout, bon, j'entends même dire que la Terre serait plate à nouveau, donc non, Je pense que moi, que vous voyez, puis d'ailleurs, si vous ne me croyez pas, nous n'avons qu'à nous regarder. Regardez comme la jeunesse que nous représentons quand même. Il y a un vieillissement dans notre société qui est de bon augure. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps en forme. Sans maladie, sans handicap ou avec des petits ennuis. Mais... Et donc ça, c'est le fruit des progrès de la médecine. On guérit des maladies dont on mourait avant. On guérit plus de la moitié des cancers dont on mourait tout de même. Enfin... Et puis je pense que le progrès ne s'arrêtera pas de si peu et que les avancées techniques et scientifiques de la médecine vont nous amener, je pense qu'on peut le dire, là, dans la décennie qui vient, avoir des traitements des maladies qu'on ne savait encore pas guérir, les maladies neuroévolutives. On commence à avoir des perspectives de traitement, enfin raisonnablement, il ne s'agit pas de promettre des choses qu'on ne peut pas tenir, mais... Donc certes, on guérit les maladies, mais soyons honnêtes, restons humbles, il y a quand même beaucoup de situations qu'on ne sait pas guérir. Et puis qu'est-ce qui s'est passé avec le progrès dans le domaine de la médecine, progrès réel, c'est qu'il a généré quelque chose qu'on n'avait pas pensé, c'est qu'on peut vivre longtemps avec des maladies qui ne vont pas guérir maintenant. Avant, si on était malade, si on était mort, quoi, en gros. Enfin, on avait le traitement, il marchait ou il ne marchait pas. Et aujourd'hui, on rend possible la vie avec des séquelles de la maladie, des séquelles des traitements, séquelles qui, elles-mêmes, vont parfois entraver complètement la qualité de l'existence, voire le sens même qu'on peut donner à notre existence. Donc on fabrique, sans s'en rendre compte, corrélativement au progrès, on fabrique des situations de grande complexité qui confrontent la personne malade à la question de sa propre finitude, en miroir de la question de du sens de sa vie. C'est des questions très complexes, c'est des questions sur lesquelles les réponses ne sont pas, ben voilà, quand on est à ce degré de maladie, c'est comme si on était mort, ça n'a plus de sens, etc. Vous voyez bien que chacun d'entre nous fait ce qu'il peut avec ces situations-là. Certains d'entre nous, et j'en vois souvent dans mon activité clinique, sont capables de transcender des situations épouvantables. Vu de l'extérieur, on pourrait, si on devait penser pour autrui, quand je vois certains malades extrêmement dépendants, j'aurais tendance à me dire, mais... Quel sens a leur existence? Elle a le sens qu'ils lui ont trouvé, ces personnes. Et je ne peux pas dire que la vie d'autrui n'a pas de sens. Je peux juste constater que chacun fait ce qu'il peut avec cette question du sens et qu'il faut beaucoup de modestie pour appréhender ces questions. C'est d'ailleurs ce qu'à mon avis autour du débat sur l'évolution du droit, sur la fin de vie, si vous voulez, on en dit deux mots après, mais c'est la modestie qui doit être au cœur des débats et des évolutions du droit, etc. Moi, je ne suis contre rien, pourvu qu'on reste humble autour de toutes ces questions, me semble-t-il. Mais il y a quelque chose qui m'apparaît important aujourd'hui, c'est, puisque nous parlons de directives anticipées, c'est de dire, bon, ben, ok, du coup, comme les gens sont confrontés à des maladies graves, comme on sait aujourd'hui par la médiatisation, par l'accès à la culture Internet, si je peux dire des choses comme ça, on sait de quoi on est atteint quand même. Je crois qu'il y a une vraie évolution dans la médecine où on même si c'est pas parfait, et ça ne peut pas l'être, mais... aujourd'hui, on nomme les choses. Avant, on ne disait pas aux malades. Aujourd'hui, d'abord, on est obligé. Enfin, on essaie de le faire avec tact et mesure, en respectant la possibilité de la personne d'entendre. Parfois, ça manque de tact et de mesure. Mais donc, chacun sachant ce qu'il a comme maladie, ce qu'il y a comme possibilité, puisque ceci lui a été expliqué, on pourrait imaginer qu'il est assez simple, lorsqu'on est malade, d'écrire ces directives anticipées. De dire, ben, cette fois, c'est mon tour, je suis malade, je sais ce que je sais ce qu'on peut faire, je sais ce que peut faire ce qu'on peut faire, je sais les limites de tout cela, j'y réfléchis, et voilà quelles seraient les limites pour moi de l'acceptable que j'écris. Ça s'appelle les directives anticipées. Si je perds la capacité de m'exprimer, vous considérerez que mon écrit vaut expression de ma volonté. Alors, c'est pas facile, contrairement à ce qu'on pense, parce que là, si je m'arrête là, je dis, bon, ben, ça reste simple, ça reste quand même très compliqué. Parce que quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui ne l'était pas avant. Et quelqu'un qui est malade, il a une perturbation de son rapport à lui-même. Parce que c'est plus le même corps, le même rapport à son corps, le même rapport à soi, le même rapport à son environnement, à ses proches. Tout ceci se modifie considérablement. Et il est difficile d'être clair lorsqu'on n'est plus tout à fait soi-même, ni tout à fait un autre. Donc très difficile quand même de se projeter lorsqu'on est dans une situation comme celle-ci. D'autant plus que ce qui est avéré, cette fois par des travaux de recherche, montre que lorsque l'on est malade et que l'on exprime sa volonté en disant « voilà, à ce jour, je me suis atteint de telle ou telle maladie, j'ai compris parce que l'on m'a expliqué quelles étaient les possibilités évolutives, les possibilités de traitement, les risques qu'il y a. Voilà ce que je ne souhaiterais pas, voilà ce que je ne voudrais pas comme traitement. Je reprends l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Si je perds la capacité d'exprimer ma volonté, eh bien, exprimer ma volonté est très corrélée avec le sens que je donne à mon existence. Ce n'est pas une généralité, ce que je vous dis. Hein. Quelqu'un peut écrire cela et dire, donc, à partir du moment où je perdrai la capacité d'exprimer ma volonté, je souhaiterais qu'on ne continue pas des traitements qui me maintiendraient dans une vie qui n'aurait pas de sens, puisque le sens de ma vie est lié à ma capacité d'exprimer ma conscience. Sauf que, dit comme cela, ça paraît encore assez simple, mais les travaux de recherche que nous avons pu mener, auxquels j'ai pu concourir d'ailleurs, montrent que plus les gens avancent dans leur maladie, plus ils ont tendance à changer leur regard sur leur vie, sur le sens, etc. Donc ce qui est clair à un moment ne le devient plus autant après, et je vous l'ai dit tout à l'heure, les directives anticipées sont révisables, heureusement, hein, parce que personne n'en écrirait du coup. Hein, elles sont révisables, c'est-à-dire qu'on a le droit de dire, attendez, je pensais ça il y a quelques mois, mais aujourd'hui finalement, après X lignes de chimiothérapie, je trouve encore du sens à mon existence, et finalement, si on peut continuer un petit peu, je suis pas hostile, tant que la vie me fait... enfin, j'y trouve du sens. Donc vous voyez, tout ce travail d'accompagnement qu'il faut, parce que du coup, les gens changent d'avis, et heureusement qu'ils changent d'avis. Je vous le disais, on est assez clair quand on n'est pas malade, sur ce qu'on ne veut pas, et puis quand on tombe malade, d'un seul coup, on se dit, mais c'est pas aussi simple que cela. C'est pas blanc ou noir, c'est pas binaire. Parce que du coup, quand on se projette dans un état qui est plus grave que celui dans lequel on est, déjà c'est difficile, et puis du coup, quand on se projette dans un état comme celui-ci, on projette sa subjectivité, ses peurs, ses représentations, son angoisse, voire la réminiscence de gens qu'on a connus, des proches, et qui ont eu une maladie un peu équivalente et dont la vie s'est finie de telle ou telle manière. Ce n'est pas par rapport à nous, puisqu'on ne peut pas savoir ce qu'il va advenir. On ne le sait pas. On peut le supposer, mais pour le supposer et c'est le représenter, on est obligé de penser à des personnes qu'on a connues. Donc ce n'est pas soi. La projection n'est pas si simple que cela. Je termine dans la complexité. Ce n'est pas du tout pour vous décourager d'écrire vos directives anticipées. Je prendrai le temps de vous dire, à mon avis, comment il faut que cela se fasse. Hein, mais je termine pour vous dire aussi qu'il y a un état dans lequel on ne peut pas se projeter, c'est l'état de sa fin de vie et de sa mort. Parce que c'est souvent autour de tout cela qu'on dit « moi, je ne voudrais pas mourir, puis je voudrais rester debout, je voudrais rester maître, etc. » Enfin, bien sûr, on aimerait ne pas se rendre compte qu'on meurt. Dormir. Voilà, s'endormir. Le problème de la question de la projection autour de sa propre fin de vie et de sa mort, c'est qu'on ne peut pas avoir d'expérience, vous le savez, ça. Enfin, personne n'en est revenu, je crois, pour pouvoir dire « moi, je sais ce qui se passe ». L'absence d'expérience possible de quelque chose que l'on sait devoir arriver ne peut que générer une angoisse, puisque l'absence de connaissance génère de l'angoisse de ce qu'il peut advenir. Donc on voit bien combien toute cette question des représentations qu'on peut avoir de sa propre mort, de ses propres peurs, tout cela, ça doit être dit pour pouvoir essayer d'avoir quelque chose d'objectif quand on travaille sur des directives anticipées. C'est pour ça que je pense que le législateur se trompe un peu lorsqu'il pense que le simple fait d'avoir écrit dans une loi on recommande d'écrire des directives anticipées au cas où on ne pourrait plus exprimer sa volonté pour qu'elles soient contraignantes et que finalement les médecins s'appuient sur ces directives pour pouvoir prendre des décisions qui seraient les décisions que nous aurions souhaité qu'ils prennent si nous avions pu leur exprimer, entre guillemets. Mais en réalité, vous voyez bien que c'est très simple de le dire comme ça, mais la réalité, c'est que, en fait, c'est pas un fait, c'est pas un acte, la directive anticipée, c'est un processus. C'est quelque chose qui doit être le fruit d'un cheminement personnel, d'un travail personnel qui est aidé par autrui, par des proches, par des médecins, par des infirmières qui cheminent avec nous à mesure que l'on peut envisager ce qu'il va ou possiblement advenir. Il faut que nous trouvions des interlocuteurs pour pouvoir en parler, démystifier certaines choses, être dans l'objectivité autant qu'on peut l'être, dans l'objectivation de ce qu'il peut arriver. Donc c'est un vrai travail pour moi d'accompagnement des personnes qui est de nature, quand on parle de ce que l'on craint qu'il advienne, mais de ce que l'on sait qu'il va advenir, quand on arrive à en parler, l'angoisse qu'il y a quand on n'en parle pas, elle diminue. Et donc il faut, à mon avis, développer ces approches partenariales, ces processus de dialogue. Le seul souci que nous avons dans notre système de santé, c'est que ce n'est pas valorisé, ça. On aimerait que... finalement, on tend un papier au malade, voilà, on vous explique ce que vous avez, écrivez vos directives anticipées. Je pense qu'on aimerait que ça puisse se faire comme ça, mais ça ne peut pas se faire comme ça au titre de ce que je viens de vous expliquer. En réalité, il faut du temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps. Vous le savez, hein, quand on est malade, c'est pas si simple que ça de parler de tout cela. Parce qu'en fait, on a envahi, le champ de sa conscience est envahi par l'angoisse et les représentations. Donc il faut y aller à petits pas quand on dialogue avec une personne malade pour l'aider à cheminer, l'aider à comprendre, l'aider à connaître, partager une connaissance. Le médecin ou le soignant découvre aussi qui est la personne, entre guillemets, parce qu'il sait que ce qu'il sait, le médecin, il ne sait pas qui est l'autre. Hein. Et c'est dans ce cheminement que peuvent s'envisager les perspectives, les possibilités, les limites. Et puis c'est au terme de ce dialogue, de ce cheminement, que peuvent même s'élaborer des écrits qui constituent des directives anticipées. Je vous dis ça parce qu'il se trouve que dans certaines de mes fonctions actuelles, je suis amené à réfléchir à la réforme de notre système de santé qui est en crise. On en parlait tout à l'heure, qui est une crise profonde, une crise du sens de ce que soigner veut dire, de mon point de vue. Hein, au-delà de... D'ailleurs, c'est ce qui explique que certains soignants quittent le métier, ils sont nombreux. C'est une espèce de... crise d'évolution, c'est une crise que nous partageons avec d'autres systèmes de santé. Hein. Dans d'autres pays qui ont des systèmes développés, on a aussi des crises graves, gravissimes des systèmes de santé. C'est pas que de la politique politicienne, tout cela, il n'y a pas les bons et les méchants, entre guillemets. Mais c'est une crise de croissance, C'est-à-dire que nos systèmes de santé ont conduit à des progrès évidents, comme je vous le disais tout à l'heure, en développant la technique et la science, mais en déshabillant en quelque sorte les humanités. Les progrès, comme je vous le disais, se sont accompagnés d'un impensé qui est la complexité dont je vous parlais tout à l'heure, ces situations complexes de gens qui ont plusieurs maladies, des maladies graves, qu'on peut freiner, qu'on peut ralentir, on peut vivre avec des maladies chroniques, etc. Ce n'était pas si vrai que cela il y a 10 ans, et encore moins il y a 20 et il y a 30 ans. Et donc les soignants et les malades ont besoin de temps pour se rencontrer, dialoguer, parler, comprendre, connaître, éprouver, etc. Et tout ceci se fait dans un moment où, au contraire, on voudrait que nos systèmes de santé, au nom de référence à la performance, soient des systèmes qui produisent de plus en plus, de plus en plus vite, des résultats. C'est-à-dire que l'humain a tendance à disparaître, en quelque sorte, dans ce système. Et dans ce que je vous dis là, moi, il y a besoin d'humain. Il y a besoin de temps. Il y a surtout besoin de se taire, d'écouter, de temps de proximité avec les malades. Et il va falloir, c'est une des piste, à mon avis, de la réforme de notre système de santé, que nous reconnaissions, que nous valorisions ce soin-là, ce soin. Il a de la valeur. Et comme il n'est pas valorisé, c'est comme s'il était dévalorisé. C'est pourquoi, à mon avis, pense qu'il faut, certes que nous parlions beaucoup des directives anticipées, mais que nous nous donnions les moyens de faire en sorte qu'elles puissent être une réalité. Donc j'espère que je ne démolis pas le sujet que vous vouliez que j'aborde ce soir, mais je pense qu'il faut que chacun d'entre nous essaie de réfléchir à ce que l'on sait qu'il va advenir de chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous essaie de se projeter, chacun d'entre nous essaie de se dire qu'est-ce qui serait inacceptable là où j'en suis aujourd'hui pour moi. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple personnel. Lorsque j'avais été sollicité au titre de la justice française pour expertiser le dossier de Vincent Lambert, je m'étais dit, mais moi, je vais les écrire en une directive anticipée parce que cette situation elle est épouvantable. Il se trouve qu'en tant que chercheur, j'ai travaillé sur les 1500 personnes qui sont en état végétatif chronique en France, en essayant de voir un petit peu qu'est-ce que ça peut être la vie quand on n'a plus de conscience, en essayant de comprendre ça, en travaillant avec des neuroscientifiques, etc. Et plus je m'enfonçais dans ce travail de recherche et de connaissance de la complexité abyssale de ce sujet, à mon avis, plus je me disais, moi, si c'est possible, je ne souhaiterais pas me retrouver dans cet état-là. Donc je vais écrire des directives anticipées, ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, c'est clair, hein, moi je ne veux pas être dans cet état-là. D'accord. Je me suis mis à essayer d'écrire mes directives anticipées. J'ai tourné autour de ma feuille de papier assez longtemps. J'ai eu beaucoup de mal à les écrire. Parce qu'il y a un moment où je me suis dit, oui, je ne vois pas qui pourrait écrire. J'ai envie d'être en état végétatif chronique. Enfin, ou alors, il y a quelque chose d'une pathologie derrière tout cela. Hein. Mais que sais-je, moi, de ce que j'éprouverais à ce moment-là? Et que sais-je aujourd'hui de ce que je penserais lorsque je serai dans cet état-là? Alors j'ai fini par écrire qu'a priori, à ce jour, je ne souhaitais pas me retrouver dans cet état-là. Et que toute situation où il y aurait forte probabilité pour que je me trouve dans un état pareil conduirait à essayer de respecter l'envie que j'avais qu'on ne me maintienne pas artificiellement en vie. Sauf, et j'ai mis un petit codicille en disant « Mais je souhaite qu'on en parle à ma personne de confiance, qui est ma compagne, qui n'a pas été très contente que je lui colle ça, en disant « Donc je l'ai rayé, puis je l'ai remis, et puis je l'ai laissé quand même, parce qu'effectivement, je pense bien que ça nécessite un autre regard que celui qui est le mien, c'est celui de celui qui nous est proche aussi. » Vous voyez combien c'est compliqué tout cela. Pour vous dire que même celui qui vous parle et qui vous dit « il faut les écrire, les directives anticipées », il n'a pas été foutu de le faire, clairement. Et j'ai fait ça encore l'année dernière avec mes étudiants à la faculté de médecine, en leur faisant faire un exercice réel d'écriture de directives anticipées. Il n'y a rien de mieux que de rentrer dans la complexité de cela pour qu'ensuite les gens comprennent que c'est compliqué, que ça prend du temps, que ça ne peut pas être résolu par une simple feuille de papier à remplir, entre guillemets. Mais c'est quelque chose de très important, en revanche. Ce n'est pas tant le résultat, la directive anticipée, que le chemin qui conduit, ou pas, à la directive anticipée, mais le cheminement, le dialogue, la parole. J'ai pu constater, et nous avons montré dans quelques travaux de recherche, comment cette parole, cet accompagnement, conduit à beaucoup plus de sérénité lorsqu'on est atteint d'une maladie grave que lorsqu'on repousse sans cesse ce sujet. Et en fait, ce n'est pas tellement la directive anticipée qui compte, c'est le fait qu'on chemine, qu'on parle Et plus on est dans ce travail, ce cheminement, plus l'instant présent, on le vit avec quelque chose qui a forcément du sens, parce que c'est du présent. Je ne sais pas si ce que je vous dis est clair. En revanche, quand on a peur, quand on est angoissé, quand on est envahi par l'angoisse, on repousse toujours le sujet. Et finalement, on ne vit pas. Ou on vit plus difficilement. Donc vous voyez bien que derrière la notion de directive anticipée, qui est une chose oui, non, blanc, noir, etc., il y a quelque chose de très complexe qui m'apparaît être extrêmement important à conduire. Chacun d'entre nous, en tant que citoyen, doit commencer à penser à sa propre finitude, hein, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. On n'a encore pas trouvé le remède pour nous rendre immortels, puis est-ce que ça serait souhaitable? J'en suis pas sûr, parce qu'on serait capable, vous imaginez les conséquences, hein, si nous trouvions... Certains y réfléchissent, hein, à trouver des possibilités d'augmenter l'espérance de vie de façon considérable. Mais imaginez ce qui se passerait, quoi, hein, si nous vivions de façon éternelle. Je vous le donne en mille, hein, moi, je pense qu'on s'emmerderait d'ailleurs. Hein, parce que je vous rappelle quand même que la question du sens, l'homme est cet animal étrange qui, parce qu'il a été doté d'une conscience, a compris qu'il était mortel, et parce qu'il a compris qu'il était mortel, à chercher du sens à ce qu'il vit. Donc nous pourrions perdre cette capacité de trouver du sens, ce qui serait quand même insensé. Donc, eh bien, puisque nous sommes mortels, puisque nous sommes malheureusement destinés à mourir, songeons-y. Si je peux me permettre de vous renvoyer à un philosophe qui s'appelle Montaigne. Relisez Montaigne. Apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. Hein, et je trouve qu'il y a quelque chose de la sagesse à avoir quand on aborde ces questions. Les mouvements du monde m'apparaissent des fois en tant que... Alors, il se trouve que je suis médecin, que j'ai une thèse de philosophie, que je travaille aussi comme enseignant en philosophie, mais je trouve que toutes ces questions autour de la vie, du sens de la vie, de la place de la mort pour apprécier la vie, est quelque chose d'assez fondamental. Et donc, parler de directives anticipées, c'est aborder un sujet que nous aurions tendance à repousser, et en parler, ça peut contribuer à donner du sens à la vie, à des personnes qui pourtant interrogent en permanence la question du sens. Donc en cela, c'est quelque chose de fondamental. Qu'on arrive à l'écrire, ah ben c'est encore mieux, ça a plein de valeur, c'est contraignant pour les médecins, etc. Mais quoi qu'il en soit, ce cheminement m'apparaît être un cheminement essentiel. Si nous apprenions à réfléchir à notre propre finitude, je pense que nous serions moins stressés. Et je vous recommande ce conseil quand même. Dans une période où le stress est assez important, je pense qu'il faut apprendre à réfléchir à cette question de la relativité de l'existence, de toute façon. Je m'arrête là, je ne sais pas si... Je vous ai peut-être complètement embrouillé autour de tout cela, hein, mais je m'arrête là, mais je suis à votre disposition. Alors, je vous le rappelle, autour de ces questions-là, puis autour d'autres questions, si vous le souhaitez, hein, y a pas de souci. Hein. Enfin, il n'y a pas de souci, il n'y a que des soucis, d'ailleurs. Mais voilà, merci.